الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الرابع عشر من شهر شعبان عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فندخل في الدرس الرابع من شرح هذا الكتاب العظيم والمؤلف المبارك كشف الشبهات لمؤلفه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 10 mai 2017 et nous voici dans le quatrième cours de l'étude de cet écrit bénéfique, la dissipation, le dévoilement des ambiguïtés de l'éminent savant Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Lors de notre dernière assise, nous avons vu ce que l'auteur a donné comme information, rahimahullah, concernant la situation du peuple de Quraysh et du fait qu'ils prenaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires afin de les rapprocher d'Allah d'après leurs prétentions. Nous avons aussi vu que ces gens-là croyaient en l'unicité d'Allah azza wa jal dans la seigneurie. Mais la croyance uniquement en la seigneurie d'Allah n'est pas suffisante pour faire de la personne quelqu'un de croyant et d'accepter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah, toujours dans ce registre, continue en disant وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلَهُمْ لِيَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالِاسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلُّهَا لِلَّهِ كُلِّهَا لِلَّهِ وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. L'auteur, rahimahullah, dit d'après traduction, si tu es conscient que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les combattit afin que l'imploration, les vœux, le sacrifice, l'invocation et tout ce genre de culte soient exclusifs à Allah, et si tu comprends que la reconnaissance par son peuple du monothéisme, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, ne le qualifiez pas en lui-même à devenir musulman, car son rapprochement d'Allah à travers l'intercession des anges, des prophètes et des hommes pieux fut la cause de la lutte qu'il mena contre eux et leurs biens. Alors tu sauras que le monothéisme, le tawhid, auquel les messagers appelèrent, est que les polythéistes et que les polythéistes refusèrent, était celui signifié par l'expression « La ilaha illallah ». Voilà comment l'auteur, rahimahullah ta'ala, poursuit dans cet écrit bénéfique la dissipation des ambiguïtés. Dans ce paragraphe, l'auteur, rahimahullah, continue à nous expliquer la réalité du tawhid, du monothéisme, avec lequel et par lequel tous les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur rahimahullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été amené à combattre ces gens-là. Les compagnons se sont opposés à eux. Quelle est la cause pour laquelle justement ils se sont opposés à eux? C'est bien qu'ils vouaient l'adoration et le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à ne vouer toutes ces formes d'adoration qu'à Allah seul. et uniquement. Ici, on voit que l'auteur, rahimahullah, a cité quelques exemples d'adoration, parmi lesquels ad-du'a, l'invocation, ad-dhabh, le sacrifice, l'immolation, an-nadr, le vœu, al-istighatha, la demande de secours. Puis il a conclu en disant wa jami'u anwa' al-ibadati kulliha lillah, et l'ensemble des adorations qui doivent être toutes vouées à Allah uniquement. L'auteur rahimahullah a cité ces quelques exemples. Il aurait pu en prendre d'autres, mais ces exemples-là ont été cités car ce sont les formes d'adoration apparentes à son époque, rahimahullah ta'ala. Il y avait beaucoup de gens à son époque qui sollicitaient autre qu'Allah, qui l'invoquaient en dehors d'Allah en demandant ce qu'on ne peut demander qu'à Allah seul. Et comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, ad-du'a, l'invocation ou le fait de demander, de solliciter autrui peut être permis, tout comme ça peut être du shirk. Quand est-ce que c'est permis? Lorsque tu demandes à autrui, à quelqu'un qui est vivant, présent et capable de répondre à ta demande. Lorsque tu dis à quelqu'un et tu lui demandes de t'aider à porter ses effets personnels qui lui sont lourds, il n'y a aucun mal en cela. Tu l'as sollicité et lui as demandé quelque chose. Quand est-ce que invoquer autre qu'Allah, solliciter autre qu'Allah relève du shirk et du polythéisme? Au moment où tu demandes à celui qui est mort, ou alors celui qui est absent, il n'est pas là, ou alors celui qui est incapable. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te bénir, la baraka. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te faciliter ce que tu entreprends dans ta vie. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre qu'Allah de guérir ton enfant malade, de favoriser la fécondité de ton épouse stérile. Tu ne peux pas faire cela, car ces choses-là sont uniquement dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à ces gens-là pour leur faire part de ces informations et pour leur dire ne réclamez qu'à Allah ce que seul Allah est capable de donner. Tabaraka wa ta'ala. De même pour al-dhabh, le sacrifice, on ne doit sacrifier uniquement au nom d'Allah, mais aussi on ne doit sacrifier que pour Allah, car comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, le sacrifice a deux formes où peuvent entrer en lui le polythéisme. La première, c'est si le nom d'un autre qu'Allah est cité lorsque l'on sacrifie, c'est du shirk. Au lieu de dire Bismillah au nom d'Allah, la personne va citer le nom de quelqu'un qu'elle a déclaré, quelqu'un de saint, de haut rang, de proche d'Allah Azza wa Jal. Si tu demandes à cette personne pourquoi tu sacrifies, elle dit pour Allah, mais au nom de celui-ci, afin qu'il me rapproche d'Allah. C'est du shirk. Une autre personne qui sacrifie en disant Bismillah au nom d'Allah Azza wa Jal, mais elle sacrifie pour le djinn. Elle sacrifie pour celui qu'elle a déclaré comme étant saint, etc. Elle a aussi commis du shirk. Les détails ont été donnés assez longuement, je pense, dans Kitab al-Tawhid. An-nadr, le vœu, al-istighatha, la demande de secours. Voici les adorations d'autres qu'Allah qui étaient largement répandues à son époque. Rahimahullahu ta'ala. Voici la situation de ces gens-là, au sujet desquels l'auteur a dit « Lam yutrilhum fil islam » leur croyance en l'unicité d'Allah, dans la seigneurie. Ils savaient qu'Allah était l'unique et seul créateur, le pourvoyeur, celui qui gère les cieux et la terre et leurs habitants, les créatures. Cela n'a pas pour autant fait de ces gens-là des croyants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dans le sens rapproché du verset, il dit « Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. » De quoi est-ce que l'on parle dans ce verset? On parle du fait qu'il croit à Rububiyya, à la seigneurie d'Allah, Azza wa Jal, en commettant du shirk dans Al-Uluhiyya. Ils croient, ils sont croyants au fait qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur. Et en même temps, ils adorent autre qu'Allah dans l'adoration, dans le culte. Subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Salih al-Sheikh a dit, فَقَدْ جَمَعُوا إِيمَانًا وَشِرْكًا. Ces gens-là ont réuni en eux une partie de foi et une partie de shirk. C'est-à-dire Rububiyya pour la foi et shirk dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration. فَلَا تَتَصَوَّرْ أَنَّ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُشْرِكْ أَنَّهُ خِلْوُ الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ. Il dit, tu ne peux pas t'imaginer que celui qui est désigné comme étant un polythéiste a le cœur totalement vide de foi. يعني يجحد الربوبية, dans le sens où il renie aussi la seigneurie. Non. Il y a une partie qu'il reconnaît qui est la seigneurie. ويجحد وجود الله جل وعلا. Ou alors qu'il nie l'existence même d'Allah عز وجل. Non. هذا هو الذي احتج القرآن على وليس هذا هو الذي احتج القرآن على أصحابه. Ce n'est pas dans ce sens que le Coran a argumenté contre ces gens-là pour leur dire croyez à Rububiyya, croyez qu'Allah est le créateur. Non. Ces gens-là sont polythéistes et ils ont Tawhid al-Rububiyya, en tout cas une très grande partie de Tawhid al-Rububiyya. بل القرآن فيه إقامة الحجج على أن الله جل وعلا واحد وأنه مستحق للعبادة. Mais dans le Coran, ce qu'il y a, c'est l'appel à reconnaître qu'Allah est le seul et unique méritant à l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on voit la situation de ces gens-là et qui est justement la même, comme on va le voir plus loin, inshallah, en détail, de ceux qui la suivent, de ceux qui les suivent. Ils ont pris entre eux Allah, les anges, les prophètes, les pieux, en disant, nous voulons d'eux qu'ils nous rapprochent d'Allah. Nous voulons d'eux leur intercession. L'auteur, rahimahullah, a dit, à ce moment-là, c'est-à-dire en comprenant ce qui vient d'être cité, à ce moment-là, tu connais la réalité du tawhid, par lequel les messagers ont été envoyés. C'est comme ça que tu connais le tawhid, avec tout ce qui a été décrit. C'est là que tu vois que les prophètes ont été envoyés avec ce message, comme l'auteur l'a dit, la parole « La ilaha illallah ». Ce message qui est réuni dans cette parole « La ilaha illallah ». Voici le sens du tawhid. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, لو كان معناها توحيد الربوبية, si le sens de cette parole, لا إله إلا الله, était l'unicité d'Allah dans la seigneurie, لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'aurait pas dit aux mushrikoun, aux polythéistes de Quraysh, dites لا إله إلا الله. Pourquoi? Parce que les gens de Quraysh reconnaissaient qu'Allah était l'unique et seul créateur. Azza wa Jal. Si la ilaha illallah voudrait dire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fourni autant d'efforts, n'aurait pas surmonté toutes ses épreuves, n'aurait pas vu ses proches partir dans le but d'appeler les gens à la ilaha illallah. Et eux l'auraient accepté immédiatement. Donc voici le véritable sens de la ilaha illallah. Et le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, a résumé ce qui vient d'être dit. Il dit, لم يكتفي بذكر التوحيد بل صرح لك بكلمته فقال وهذا التوحيد هو مدلول هذه الكلمة لا إله إلا الله. L'auteur ne s'est pas contenté de citer ce que l'on appelle التوحيد, le monothéisme, l'unicité d'Allah, non. Mais il a expliqué clairement que le tawhid, c'est la parole la ilaha illallah. يعني أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه. C'est-à-dire que la divinité adorée et pour laquelle le culte est voué doit être Allah seul et uniquement. Subhanahu wa ta'ala. Le commentateur continue en disant que c'est pour cela qu'on nous demande de dire la ilaha illallah. Une parole qui contient deux piliers. Une négation suivie d'une affirmation. Et ça, c'est important. Tout le monde doit le savoir. Personne n'a le droit d'ignorer cela. Ignorer cela est une catastrophe. Ignorer cela est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La parole la ilaha illallah a deux piliers. La négation et l'affirmation. Al-nafyu wal-ithbat. Nafyun ammun wa ithbatun khas. Une négation générale et une affirmation spécifique et particulière. Qu'est-ce qui est voulu par la négation générale? نفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله عن كل ما سوى الله عز وجل. Le fait de nier le droit à l'adoration de tout autre qu'Allah de façon générale, sans exception. Voici ce qui est voulu par la première partie de la parole La ilaha. Et l'affirmation, on la retrouve dans la deuxième partie Illallah. C'est l'affirmation spécifique au droit à l'adoration pour Allah seul, sans associer Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit فَإِنَّ الْإِلَهَ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ سَوَاءٌ كَانَ مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ شَجَرَةً أَوْ قَبْرًا أَوْ جِنِّيًّا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرزاق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. Il va nous donner une information importante. Il nous dit que ce que l'on appelle إله, qui signifie divinité ou qui signifie adorer, celui à qui on a voué l'adoration, celui à qui on a voué le culte, l'adorer, la divinité en arabe, on l'appelle Al-Ilah ou Al-Ma'bud. Eh bien, Al-Ilah chez ces gens-là, c'est-à-dire les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combattu, le peuple de Quraysh, chez ces gens-là, عند أهل اللسان من قريش وغيرهم, vers lesquels le prophète a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ils savent très bien que Al-Ilah, c'est celui vers lequel on se dirige pour toutes ces choses qui viennent d'être citées, l'adoration, l'invocation, le sacrifice, le vœu, la demande de secours et toutes les formes d'adoration. Le peuple de Quraysh sait avec certitude que le sens de ce terme « ilah » signifie celui vers lequel on se dirige pour les adorations. Ils le savent très bien. Et eux n'ont jamais expliqué Ilah, divinité, adorée, comme étant celui qui crée. Ils n'ont pas expliqué Tawhid al-Uluhiyya par Tawhid al-Rububiyya, comme c'est le cas de beaucoup de gens égarés, notamment les gens qui suivent Al-Mu'tazila, les gens qui suivent Al-Asha'ira, les gens qui suivent Al-Maturidiyya et d'autres écoles encore, qui enseigne aux gens que le sens de la ilaha illallah signifie, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la qadira ala l'ikhtira'i illallah. Il n'y a de capable de créer des choses sans précédent qu'Allah seul. Voilà leur explication de la ilaha illallah. Et comment cela est arrivé? Lorsque les livres de philosophie grecque ont été traduits dans la langue arabe, la philosophie s'est infiltrée dans la croyance. Et les musulmans qui, à l'époque, ne connaissaient que le kitab ou la sunna, le livre et la sunna, ont commencé, pour certains d'entre eux, à être pris par cette curiosité qui les a poussés à lire ces écrits Puis les règles qu'ils ont trouvées dans ces écrits, ils les ont appliquées avec la croyance. Et c'est là la cause de l'apparition de beaucoup de sectes dans l'islam. Ils se sont posé beaucoup de questions et d'interrogations là où il n'y avait pas à le faire. Car dans l'islam, dans la sunna, dans la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivi qu'on te demande. C'est la soumission qu'on te demande. Eh bien, ils ont expliqué la ilaha illallah comme étant la khaliqa illallah. Certains ont expliqué la ilaha illallah comme étant la hakima illallah. C'est l'explication donnée par les khawarij. Ils disent la ilaha illallah signifie il n'y a de juge qu'Allah seul. Hada sahih. Cette phrase est vraie. Walakin laysat al-maqsudata min kalimati la ilaha illallah. Mais ce n'est pas ce qui est voulu par la parole la ilaha illallah. Certains ont expliqué la ilaha illallah comme étant ikhraj al-yaqin al-fasid wa idkhal al-yaqin as-sadiq fi al-qalb. Et c'est l'explication donnée par le groupe appelé Jama'atou Tablir. Et ça, c'est dans leur écrit. C'est dans leur écrit qu'on retrouve cela. Que la ilaha illallah est expliquée comme étant le fait d'extraire du cœur, de faire sortir du cœur toute mauvaise certitude, puis faire rentrer dans le cœur la certitude. La ilaha illallah, chez Quraysh, ça ne veut pas dire ça. Quraysh, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent le sens de la ilaha illallah. C'est pour ça que le cheikh va donner aussi une information que vous allez entendre, incha'Allah ta'ala. Voici la situation encore de ces gens-là. Wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'ni al mushrikuna fi zamanina bi lafz al sayyid. Mais ce qu'ils veulent lorsqu'ils emploient le terme ilah, c'est la même chose pour ceux qui, à notre époque, ils parlent de la sienne, mais aussi à la nôtre en réalité, pour ceux qui emploient le terme As-Sayyid. As-Sayyid. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais si je vous dis Sidi, peut-être que ça va vous parler. Eh bien, Sayyid, c'est ce qui est voulu par le mot Sidi, que l'on entend souvent dans le Maghreb. Algérie, Maroc, Tunisie, où on entend Sidi, un tel, Sidi Foulan, Sidi Foulan. Il y a là le quartier de Sidi Abdel Qadir, il y a le quartier de Sidi un tel, Sidi Ahmed, Sidi Yahya. De quoi est-ce que l'on parle? Ma huwa al-maqsoudu bihada? Le Cheikh Salih al-Sheikh a dit, wa yuradu bi sayyid alladhi biyadihi tawassutu wal man'a. Ce qui est voulu par le Sayyid, c'est celui qui a la capacité d'intercéder auprès d'Allah lorsque tu as une demande. Celui qui a la capacité de faire arrêter quelque chose que tu ne veux pas avoir. Il va demander à Allah pour toi, il est proche d'Allah. Ou alors, c'est celui qui a le secret. Et c'est pour ça que dans les livres du soufisme, lorsqu'ils parlent de leur grand maître, ils disent « Sayyidona »,« As-Sayyid ». Le mot « Sayyid » à la base est un terme qui signifie « le maître »,« Al-Muslih »,« Al-Muta'a », »,« le maître qui est obéi »,« Al-Murabbi », »,« l'éducateur », proche du terme « Rabb ». Mais eux l'ont utilisé en voulant un autre sens, en voulant dire « As-Sayyid » est celui qui est tellement proche d'Allah qu'il peut faire parvenir tes demandes. Et c'est vers lui qu'on doit se rapprocher. Ils disent aussi, il a un secret. C'est pour cela qu'ils disent, Qaddasallahu sirrahu. Quand ils parlent de lui, ils disent qu'Allah sanctifie son secret. Et ça, vous le trouvez dans les livres du soufisme. Quand on parle des grands maîtres, au lieu de dire, par exemple, comme on dit pour l'un d'entre nous, parmi l'un d'entre nos savants, Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, Qaddasallahu ruha, la ba'sa bihada, qu'Allah sanctifie son âme. Eux, ils disent Qaddasallahu sirrahu, qu'Allah sanctifie son secret. Masha'Allah, le secret. La hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib. Et donc, voilà ce qu'ils veulent. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a dit Hada sayyid, ya'ni ilah. وإن لم يستشعروا هذا اللفظ même s'ils ne se rendent pas compte du terme Sayyid, voici ce qui est voulu par le Sayyid. C'est la divinité en réalité. C'est celui à qui on a donné l'adoration. C'est celui qu'on a adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais le sens, quand eux le disent, l'emploi, c'est celui, comme nous l'avons dit, qui est capable de faire l'intermédiaire entre nous et Allah, qui est capable de rapprocher nos demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. وَأَنَّ الْاِعْتِقَادَ فِيهِ يَنْفَعُ إِذَا تُشُبِّثَ بِهِ. Certains pensent que croire en lui, croire en ce Sayyid, est quelque chose d'utile pour nous. Et ils s'y accrochent. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ils leur demandent, en dehors d'Allah, ce qu'on ne doit demander qu'à Allah Azza wa Jal. Et ils disent de lui qu'il est un saint, un pieux, wali. C'est pour ça qu'ils disent si el wali, si di fulan, le pieux, le saint, un tel et un tel. Et ils vont voyager dans beaucoup de pays, ils traversent des milliers de kilomètres. Et l'un d'entre eux espère un jour dans sa vie arriver à la tombe de Sidi un tel. Et il n'a pas cette même envie d'arriver à la Kaaba, la maison d'Allah. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. L'auteur, rahimahullah, dit, فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. L'auteur continue et dit, leur est alors venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les invita à la parole du monothéisme, à la parole de l'unicité qui est la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Wal muradu min hadhihi al-kalimati ma'naha la mujarrad lafdhiha. Et ce qui est voulu par cette parole, c'est bien son sens. Non pas sa simple prononciation. Le fait de prononcer la ilaha illallah sans en comprendre le sens et sans en mettre en pratique le sens, le fait de dire la ilaha illallah nuit et jour pour aller ensuite vouer le culte à autre qu'Allah ne fait pas de la personne une musulmane ni une croyante. Car ce qui est voulu par cette parole, c'est son sens et pas simplement sa prononciation. Et les koufars de Quraysh qui étaient ignorants savaient que ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette parole, c'était que les gens s'attachent à Allah uniquement et se dirigent vers lui uniquement, et également qu'ils mécroient à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qu'ils s'en désavouent. Ils savaient que c'était le sens de la ilaha illallah. Et pour cette raison, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans les marchés qui étaient fréquentés par ces gens-là pour les inviter à la parole la ilaha illallah, il leur disait, ayyuhan nas, ô vous les gens, qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, tuflihu, vous réussirez. Il répondait ce qu'Allah a dit dans sourate Sad, aja'ala al-alihata ilahan wahida, va-t-il réduire toutes nos divinités à une divinité unique? Ça, c'est le tafsir de la ilaha illallah qui a été donné par Quraysh et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh est un peuple de polythéistes qui connaît le sens de la ilaha illallah. Aujourd'hui, des gens disent la ilaha illallah et ignorent son sens. Et ils disent la khaliq illallah, nul créateur à part Allah. La Rab illallah, nul seigneur à part Allah. La Hakim illallah, nul juge à part Allah. Alors que Quraysh a donné une explication de la ilaha illallah qui a été citée par Allah dans le Coran et qui n'a pas été niée. Voici le sens de la ilaha illallah. Ainsi, tu pourrais dire la ilaha illallah ma'na an taj'al al-alihata ilahan wahida. La ilaha illallah signifie réduire toutes les divinités à une seule, se détacher de tout ce qui est adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de cette parole. Il disait inna hadha la shay'un ujab. Il disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son prêche, voilà ici une chose grandement étonnante. Wal'iyadu billah. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit qu'il n'est pas suffisant de prononcer cette parole, car en réalité, ce n'est pas cette parole en elle-même que l'on recherche, mais c'est son sens. Cette parole est un moyen d'arriver à son sens. Voilà ce qui est voulu par cette parole. Ainsi, l'on voit que ces gens-là ont bien compris le sens de la ilaha illallah. Quant à notre époque, on trouve des gens qui ne cessent d'ignorer le sens de la ilaha illallah et qui peut-être sont déclarés comme étant des grands savants, ulama, wahum ajhalul khalq, alors qu'ils sont les plus ignorants de la créature. Wal'iyadu billah, des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِي الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَالُ الْكُفَّارِ. Lorsque tu as pris connaissance du fait que les ignorants parmi les kuffars connaissaient cela, ils connaissaient le sens de la ilaha illallah, alors l'étonnement est très grand devant ceux qui prétendent à l'islam, alors qu'ils ne connaissent, qu'ils ignorent de cette parole ce que les ignorants de Quraysh ont connu. Aujourd'hui, ils disent « Je suis musulman » et ils ignorent le sens de cette parole, alors que les djuhal, les ignorants des kuffars de Quraysh, connaissaient le sens de cette parole. « بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا » مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي. Il pense que c'est la simple prononciation de cette parole qui est voulue, sans pour autant avoir avec cette parole une conviction dans le cœur en son sens. وَالْحَادِقُ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ إِلَّا اللَّهِ. Et le plus doué d'intelligence parmi eux, le plus intelligent de ces gens-là, parmi ceux qui donnent une explication fausse de la ilaha illallah, est celui qui dit la ilaha illallah signifie qu'il n'y a d'autre créateur qu'Allah, qu'il n'y a d'autre pourvoyeur qu'Allah. On a des gens qui disent ce qui est voulu de cette parole, c'est la prononciation. Lorsqu'elle est prononcée, elle fait de toi un croyant. Ils sont égarés, bien sûr. Et les plus intelligents parmi ces gens égarés dans l'explication de la ilaha illallah sont ceux qui disent « La ilaha illallah signifie nul autre créateur qu'Allah » alors qu'eux-mêmes, bien sûr, sont dans un égarement évident et manifeste. Tayyib. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, nous dit « Hada fil haqiqati min a'jab il ajab » En réalité, ceci fait partie des choses les plus étonnantes. بَلْ مِنْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ وَأَفْحَشِ الْخَطَأِ. Cela fait partie de la pire des ignorances et de la plus grande des erreurs. Quelle erreur est plus grande que celle de donner une explication de la ilaha illallah qui n'est pas la bonne? Il n'y a pas d'erreur pire que celle-là, plus grave, plus grande que celle-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui portent des vêtements qui laissent croire à leurs auditeurs, à leur assistance, à leur assemblée, qu'ils sont de grands savants, de grands professeurs. Peut-être qu'ils sont titulaires de doctorat, peut-être qu'ils sont titulaires de diplômes dans les hautes études, alors qu'en réalité, ils sont complètement ignorants de la ilaha illallah. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils voient des gens commettre le shirk, ils disent ils ne commettent pas le shirk. Pourquoi ? Parce qu'ils disent la ilaha illallah. Ils ne commettent pas le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils savent que seul Allah est le créateur. Ils ne commettent pas le shirk. Pourquoi? parce qu'ils savent que la ilaha illallah signifie sortir du cœur la fausse certitude et faire entrer la vraie certitude. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est un égarement gravissime, car ça ouvre les portes au kufr billah et au shirk. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah dit: فإن أبا جهل وضربه لو يعلمون أن هذا هو المراد لما تلعثموا في قولها ولا نازعوا. Si Abu Jahl et ses semblables, qui sont les pires ennemis de l'islam, au point il a été surnommé par les savants comme étant Fir'aun hadhihi al-umma, le pharaon de cette communauté, Abu Jahl, qui était l'ennemi juré d'Allah Azza wa Jal, s'il savait que le sens de la ilaha illallah était cela, il n'aurait jamais hésité un seul instant et aurait prononcé cette parole. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prononcé cette parole? Car ils en ont compris le sens pendant que des gens qui prétendent être de cette communauté ignorent le sens et le contredisent nuit et jour. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est un égarement évident. L'auteur dit: فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. Il n'y a absolument aucun bien. Il n'y a aucun bien chez un individu dont les ignorants des kuffars sont plus savants que lui du sens de la ilaha illallah. Un individu qui dit la ilaha illallah et qui dit être musulman, qui ignore le sens de cette parole, alors que les kuffars de Quraysh connaissaient le sens, n'a aucun bien. Il n'a aucun bien. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit: هذا رجل سوء لا خير فيه. Une telle personne est mauvaise, elle n'a pas de bien. هذا أقل ما يقال فيه. C'est le minimum que l'on puisse dire concernant une telle personne. Et l'auteur, rahimahullah, a été modeste dans son jugement. Car comme le dit le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, « Wa illa fa huwa yastahiqu a'dham » En réalité, il mérite plus que cela. Il n'a absolument aucun bien. Wal'iyadu billah. Comment peut-il ignorer la ilaha illallah alors que c'est l'essence de l'islam? C'est la base de l'islam. « Iza arafta ma qultu laka ma'rifata qalb » وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. Si tu es bien conscient de ce que je viens de citer et du polythéisme au sujet duquel Allah Azza wa Jal a dit dans le sens rapproché, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Si tu es conscient de la religion d'Allah pour laquelle il envoya ses messagers, si tu sais qu'il n'accepte aucune religion à part la sienne et conscient de l'état d'ignorance dans lequel se trouvent désormais les gens, tu en tireras deux avantages. Et c'est là qu'il va bientôt conclure cette introduction et qu'il va arriver au vif du sujet bi'inillah ta'ala. Mais avant, il nous dit que là, il nous fait comprendre que maintenant tu as pris connaissance de la réalité des gens et que les gens ignorent le sens de l'islam, le sens réel de l'islam. Allah n'accepte nulle autre religion que l'islam, comme il le dit. Il s'est basé sur la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion chez Allah est l'islam, c'est-à-dire la seule qui est agréée, acceptée. Et dans l'autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle lui sera rejetée et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Puis quand tu vois la situation de la masse des gens, quand tu vois l'état d'ignorance dans lequel se trouve désormais la masse des gens, tu as appris ce qu'est le tawhid, tu as compris ce qu'est le shirk, tu regardes la masse des gens et tu vois que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, comme Allah le dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, dans de très nombreux versets, sont dans le kufr, sont dans le shirk, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils disent la ilaha illallah. Qu'est-ce que cela va te mener, va t'amener et te donner comme sentiment dans le cœur? Eh bien, deux choses qui vont être citées ici. Afadaka fa'idatayn. Cela, tu en tireras deux avantages. Le premier, al-oula, al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmati. Comme a dit Ta'ala, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Le premier, c'est la joie, le bonheur, la réjouissance devant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens rapproché du verset, dit, ceci est la grâce ou provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Ici, l'auteur, rahimahullah, t'a expliqué la religion de tous les messagers. Il t'a montré la religion des polythéistes. Il t'a enseigné que la plupart des gens ignorent cette religion, la religion du tawhid. Tu vois dans la plupart des gens, le kufr, le shirk, l'égarement, l'ignorance. Et toi, Allah Azza wa Jal te facilite cette science et ce savoir. Tu te dois d'éprouver la plus grande de toutes les joies. Car comprendre le tawhid, c'est comprendre l'islam. Comprendre l'islam, c'est comprendre où est le bonheur. C'est comprendre où est la réussite. C'est comprendre comment te protéger du feu de l'enfer. C'est comprendre comment trouver le jour du jugement dernier un Seigneur satisfait de toi pleinement. C'est comprendre comment arriver le jour dernier et voir tous tes péchés brûlés, effacés. C'est comprendre comment faire partie de ceux pour lesquels les anges d'Allah invoquent. C'est comprendre comment entrer au paradis. C'est comprendre comment arriver un jour à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà c'est quoi le tawhid. Et si tu es de ces gens-là, qu'Allah Azza wa Jalla à qui Allah a donné cette facilité de comprendre le tawhid, wallahi, tu dois éprouver une immense joie, un immense bienfait. Ne sois pas jaloux parce que la personne est riche. Ne sois pas jaloux parce que la personne possède de nombreux biens mondains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, raka'at al-fajr, les deux raka'at de la sunna du fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, sont meilleurs que la dunya et que ce qu'elle contient. Ne sois pas jaloux de quelqu'un parce qu'il mange et il boit plus que toi. Ça ne sert à rien. Par contre, envie la personne du tawhid, envie la personne de la sunna, envie la personne de la science. Oui, ça oui. Quant à cette jalousie inutile, elle ne te sert à rien, si ce n'est à te pousser à désobéir à Allah Azza wa Jal, et elle est le résultat du manque de tawhid. Et c'est aussi pour cela que les gens vont faire du sihr, de la sorcellerie, parce qu'ils veulent s'enrichir, ils veulent guérir, ils veulent être mieux que leurs voisins, ils veulent causer du tort à un tel et un tel. Tout ça, c'est à cause du manque de tawhid. Le manque de tawhid revient au manque de bonheur, au manque du but pour lequel tu as été créé. Allahu Akbar, tu as tout perdu. Wallahi al-Azim, tu as tout perdu. Si tu manques le tawhid dans ce bas monde, qu'Allah Azza wa Jal nous comble de ses immenses bienfaits. Ainsi, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit: Ma'rifatuka din al-mursalin wa i'tiqaduhu wal-amal bih, ta connaissance de la religion des messagers, ta conviction en celle-ci, ta mise en pratique de celle-ci, wa ma'rifatuka din al-mushrikin wa mujanabatuhu al-kufr bih, et ta connaissance de la religion des polythéistes, et le fait que tu y mécrois et que tu t'en éloignes et désavoues, le fait qu'Allah t'ait enseigné tout cela, il t'a montré la voie du bien, c'est un immense bienfait. Et ce bienfait augmente quand tu vois que la plupart des gens ignorent cela. Le tawhid qui à la base est très simple à comprendre. Wallahi, le tawhid est très simple à comprendre. Aujourd'hui, quand tu fais face à quelqu'un qui est dans le shirk et tu essaies de lui expliquer des versets on ne peut plus clairs, des hadiths on ne peut plus clairs, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et votre Seigneur a décrété n'adorer personne d'autre que lui. Il te répond oui, mais. Lorsque tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ, jusqu'à ce qu'il témoigne que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite l'adoration, ils te répondent oui, mais. Ils sont pris par les ambiguïtés. Ils écoutent l'égarement. Ils se trompent et s'égarent du chemin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Combien de gens sont nés dans des milieux où ils n'ont fait que suivre et ils n'ont pas eu cette faveur que toi tu as eue? C'est pour ça que toi tu dois éprouver de la joie, certes, mais tu dois les appeler ces gens autant que possible. Tu dois les appeler à Allah, tu dois leur montrer, leur dire qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ce bas monde. C'est comme si tu allais, par la grâce d'Allah, être la cause par laquelle Allah va sauver les gens, les âmes de l'enfer. Tu arrives yawm al-qiyam et Allah par toi, il a sauvé des gens du feu. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a donné l'ordre d'éprouver de la joie pour son livre. Et son livre, qu'est-ce qu'il contient d'autre que le tawhid? La deuxième chose, wa afadaka aydan al-khawf al-azim. Fa'innaka idha arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. L'auteur rahimahullah dit: la grande peur te bénéficiera également. Car si tu sais que l'homme peut devenir polythéiste par la simple prononciation d'un mot, même par ignorance, cette ignorance ne lui servira pas d'excuse. Il peut également le prononcer en estimant qu'il le rapproche d'Allah, comme cela fut le cas des polythéistes. En particulier, si Allah Azza wa Jal t'inspire l'histoire du peuple de Moussa alayhi salam, malgré le savoir qu'il détenait, lorsqu'il dira à Moussa, désigne-nous une divinité semblable à la leur. Alors, grande sera ta précaution et ta peur. Grandes seront ta précaution et ta peur qui t'inciteront à te défaire de ces gens-là et de leurs semblables. Voici la deuxième chose. Il y a certes le fait d'éprouver de la joie pour le tawhid, mais ça ne veut pas dire que tu te sentes à l'abri de l'égarement, et tu te dises, c'est bon pour moi, j'ai atteint le tawhid, je l'ai connu, walhamdulillah. Puis tu t'appuies sur cela. Cela est une ruse du diable. Tu dois éprouver de la joie pour le tawhid, mais de la peur à perdre ce tawhid. Cheikh Abdul Razak ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidahullah, dans son commentaire de Kashf al-Shubuhat, a illustré cela par un exemple qui convient. Il dit à l'image de quelqu'un qui est en voyage, et quelqu'un prend la route, il prend la route vers une destination voulue. Il a en sa possession une valise dans laquelle il y a un trésor très précieux. Imaginez-vous, quelqu'un qui voyage, il a à la main une valise remplie d'un trésor à un prix très élevé, quelque chose de très riche. Pensez-vous que cet individu va faire attention à la route qu'il va prendre, au moment auquel il va voyager, les chemins par lesquels il va passer, qu'il va cacher son trésor et qu'il va regarder souvent à sa droite et à sa gauche s'il y a quelqu'un, un brigand de la route qui viendrait lui dérober son bien? Ou alors, vous pensez qu'il va cheminer sans donner d'importance à ce trésor, s'il le perd, il le perd. Il va cheminer de nuit, il va passer par des endroits où il sera susceptible de rencontrer des voleurs, des brigands de la route. Il va aller dans des endroits où il n'y a pas de sécurité, à votre avis? Bien sûr qu'il s'agit du premier individu. Il va bien faire attention parce qu'il a un trésor. Eh bien, ton trésor le plus précieux, c'est le tawhid. Et tout comme lui est content d'avoir ce trésor, toi encore plus, tu dois être heureux d'avoir ce tawhid. Et tout comme lui va faire attention quand il voyage aux brigands de la route, à le faire tomber, à le perdre, à se le faire dérober, eh bien toi, tu dois craindre dans ton voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton cheminement vers Allah, que le shaitan, qui est le pire des brigands de la route pour toi, ne te dérobe ton tawhid et ne t'invite à commettre le shirk. Il a dit Allah azza wa jal, « Qala fa bi'izzatika la urwiyannahum ajma'in » Par ta puissance, je les égarerai tous, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, à l'exception de tes serviteurs parmi eux que tu auras élus. Qui sont ceux qu'Allah a élus? Les gens du tawhid. Les gens du tawhid. Ainsi, tu dois craindre Allah et de perdre ce tawhid. L'auteur, le cheikh a dit, Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, Al-khawf ala nafsika wa dinik. La peur pour toi, pour ta personne et pour ta religion. Fatafrahu bid-din wal-amali bih. Tu éprouves de la joie pour la religion et sa mise en pratique. Wa takhafu ala nafsik min zawali hadhi an-ni'ma. Et tu crains pour toi la perte et la disparition de ce bienfait. Wa dhahabi hadha an-nur. Et la dissipation de cette lumière. Wa hiya ma'rifatuka din al-mursalin wa ittiba'uhu. Qui est ta connaissance de la religion des prophètes et ton suivi. Wa ma'rifatuka din al-mushrikin wa ijtinabuhu. Et ta connaissance de la religion des polythéistes et le fait que tu t'en éloignes. Ma'a anna akthara an-nas fi ghayati al-jahli bih. Alors que la plupart des gens sont dans une ignorance extrême. Ils ne connaissent pas la réalité du tawhid. Puis il dit فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ. Lorsque tu prends conscience du fait que la personne, en prononçant une seule parole, peut quitter l'islam, alors qu'elle est ignorante, et son ignorance n'est pas une excuse, ya Allah, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, Hafidhahullah ta'ala, a dit, c'est-à-dire, la yadri ma tablughu bihi hadhihi al-kalima, qu'une telle personne ignore la gravité de sa parole prononcée et de ses conséquences néfastes. Aw annaha la tasilu ila hadha al-mawsil, ou que cette parole ne va pas lui faire atteindre ce grave niveau. Aw hadha al-amr أو هذا القعر من النار. La personne prononce une parole et ne se rend pas compte de la profondeur dans le feu à laquelle cette parole peut l'emmener. أو هذا القدر من العقوبة. Ou cette grande punition d'Allah عز وجل qu'elle encourt. فلا يعذر لكونه مفرطا مهملا مضيعا غير مبال بدينه ولا مهتم به. Il ne sera pas pardonné par Allah. Il ne sera pas excusé par l'ignorance, car il se détournait, il négligeait, il laissait se perdre sa religion, donc ne la prenait pas, et n'en prêtait aucune attention, il ne lui accordait aucune importance. Et c'est ça qui a fait que cette personne aujourd'hui est ignorante. Mais cette ignorance n'est pas une excuse devant Allah Azza wa Jal. Parce que cette ignorance est le résultat du fait que la personne a délaissé l'apprentissage. Comme a dit le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, alayhi rahmatullah, et d'autres encore. Donc tu vois ici que c'est quelque chose d'extrêmement grave et il faut faire attention. Il faut faire attention à tout cela et Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal insana la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha. La personne peut prononcer une parole à laquelle elle ne prête pas attention. Elle ne réfléchit pas sur le sens de cette parole. Elle ne reconnaît pas son importance, sa gravité. فَيَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Et à cause de cette parole, elle croulera dans le feu pour une distance plus loin, plus grande que celle qui sépare l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident, pour une seule parole. Que dire alors de la personne qui prononce beaucoup de paroles de shirk? Que dire de la personne qui appelle les gens à prononcer beaucoup de paroles de shirk? وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, a dit: وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ لَا يَدْرِي مَا تَبْلُغُ بِهِ مِنَ الْمَبْلَغِ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ. Il se peut que la personne prononce une telle parole en étant ignorante de la gravité de ce à quoi cette parole peut l'amener, puis elle ne sera pas excusée de par cette ignorance. وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ مُجْتَهِدٌ يَظُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا كَمَا ظَنَّ الْمُشْرِكُونَ. Et comme l'ont pensé les polythéistes, des fois des personnes prononcent des paroles de shirk et de kufr en pensant que ces paroles les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu en détail. Il dit ensuite: particulièrement lorsque tu vois si Allah t'inspire l'histoire du peuple de Moussa alayhi salam, malgré le savoir qu'ils détenaient, ils ont dit à Moussa: Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Désigne-nous une divinité semblable à la leur. Alors seront ta précaution et ta peur qui t'inciteront à te défaire de ces gens-là et de leurs semblables. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit que Moussa alayhi salam a répondu à son peuple: Innakum qawmun tajhalun. Vous êtes un peuple ignorant. Vous êtes un peuple ignorant, car ce peuple a demandé à Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ont vu des gens adorer le veau en or: donne-nous aussi une divinité comme eux. Moussa alayhi salam, qui les a appelés au tawhid, qui les a invités à l'islam, entend cela et les blâme en disant: Innakum qawmun tajhalun. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a dit: ومن أسباب الخلوص من هذا الدعاء من هذا الداء العضال التفتيش عن مبادئه ووسائله وذرائعه. Parmi les causes pour se débarrasser, se détacher de cette grave maladie qui est le shirk, le fait de rechercher quelles en sont les bases, quelles en sont les causes, quels en sont les moyens qui y mènent. C'est comme ça que tu te protèges du shirk. Si tu veux te préserver du shirk, tu dois le connaître. Tu dois savoir qu'est-ce qui est susceptible de te conduire au shirk. Et tu dois voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de récits, comme on l'a vu dans Kitab al-Tawhid, il dit aux compagnons: ne dites pas Sayyid, alors qu'il l'est. Il dit aux compagnons: ne dites pas Masha'Allah wa Shi'it. Dans d'autres hadiths, on voit qu'il interdit aux compagnons de se lever pour lui. Pourquoi tout ça? Pour fermer les portes au shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'on n'en a pas besoin, alors que lui, sallallahu alayhi wa sallam, l'a enseigné à ses compagnons, les meilleurs de la communauté. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés et devenus ce qu'ils sont devenus, radiyallahu anhum ajma'in. Et c'est pour cela, comme a noté le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah, que le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu disait: Kana ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yas'alunahu 'anil khayr wa kuntu as'aluhu 'anil sharr ma khafata an yudrikani. Voici l'intelligence des sahaba. Autrefois, les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient sur les bonnes choses, sur les bonnes actions, sur la prière, sur le jeûne. Et c'est très bien cela. Comment faire la prière, les règles, qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui annule le jeûne. Il dit: quant à moi, je l'interrogeais sur les mauvaises choses. Pourquoi ? De peur qu'elles ne m'atteignent. يخاف أن يسقط في هذه الأشياء فيسأل عنها حتى يجتنبها. Par crainte de tomber dans le mal, il a cherché à connaître le mal. Et c'est pour cette raison que Hudhayfa, radiyallahu anhu, est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths concernant les fitanes, concernant les troubles. Car il allait beaucoup demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cette chose, comment s'en sortir? Qu'est-ce que ce mal, comment il arrive, comment s'en sortir? Et sa curiosité a fait qu'aujourd'hui, on prend de sa science. Radiyallahu anhu. Et on se protège par la grâce d'Allah des fitaines et des maux. Donc tu vois bien que interroger est important dans l'islam. Parmi les causes également, sidqul ibtihali ila Allahi wa su'alihi tathbit, le fait d'être véridique et de rechercher à Allah, chez Allah, le raffermissement. Wa kathiran ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u bi hadha ad-du'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup: Allahumma ya muqallib al-qulub wal-absar, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi Allah, qui détourne les cœurs et les regards, raffermis mon cœur dans ta religion. Et comme Ibrahim alayhi salam qui a dit: Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, Rabbi innahunna adlalna kathira min an-nas. Ibrahim alayhi salam disait: Ô Allah, ô Seigneur, écarte-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Ô Seigneur, elles ont égaré bon nombre de gens. Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam, le deuxième meilleur prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, qui a été décrit comme étant Khalilullah, l'ami d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim alayhi salam, l'imam des gens du Tawhid après le prophète sallallahu alayhi salam. Et pourtant, et c'est lui qui a cassé les statues étant jeune, par sa main, il est le prophète. Pourquoi il ne se sent pas en sécurité? Pourquoi il dit, oh Allah, préserve-moi de l'adoration des idoles, que lui a cassé avec sa main, et qui est le plus connaisseur du shirk et du tawhid, et qui a été envoyé par Allah Azzawajal pour cela? Il est protégé, il est préservé par Allah, et il a peur de faire du shirk. Il craint d'adorer les idoles alors qu'il les a cassées avec ses mains. Puis aujourd'hui, on dit, c'est bon, il a dit, la ilaha illallah. Arrêtez de fatiguer les gens et de leur dire qu'il ne faut pas faire du shirk. Ces gens-là, ils connaissent Rabbul Alamin, ça suffit. Tu vois l'égarement des gens. Et tu vois l'égarement. Et que plus tu es connaisseur, plus tu crains le shirk. Et plus tu crains le shirk, plus tu l'apprends. Plus tu le crains, plus tu apprends le tawhid. C'est comme ça qu'étaient les messagers d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك